8h passées de 5 minutes sur Aligre FM 93.1. Vous êtes avec Clément dans Voix contre oreille. Nous nous retrouvons comme tous les mercredis entre 8h et 9h. Et aujourd'hui, nous discutons de deux grands projets du Grand Paris. L'aménagement du plateau de Saclay et celui du triangle de Gonesse. Alors qu'hier paraissait une tribune dans Le Monde d'un collectif de maires emmené par la maire de Paris, appelant à ne pas revoir à la baisse la construction du Grand Paris Express, certains émettent des doutes quant au bien fondé de l'allongement du réseau ferré et, au-delà de ça, des grands projets urbains qui se trouvent au cœur du développement du Grand Paris. Comme nous en avions discuté au sujet du projet d'immenses centres commercialo-touristico-immobiliers du Triangle de Gonesse, ainsi que lors d'une émission sur les JO 2024 avec Frédéric Vial, de nouveau, ce sont des questions de coûts faramineux, de gentrification, de manque de consultation publique et de destruction d'espaces agricoles périurbains qui vont être abordées aujourd'hui. L'aménagement du plateau de Saclay et du triangle de Gonesse, c'est donc le sujet de l'émission d'aujourd'hui, une émission en partenariat avec l'association Pour une constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association Pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Et oui, donc une émission en partenariat avec l'APUC, l'Association pour une constituante, sur le thème du contrôle citoyen, de la légitimité démocratique et donc de l'aménagement, concerté ou non, on le verra, du plateau de Saclay, avec le projet de cluster scientifique, et du triangle de Gonesse avec le projet Europa City. Pour cela, nous joindrons Jean-Yves Souben, membre du collectif Non à Europa City, un autre projet est possible, par téléphone en milieu d'émission. Nous avions déjà discuté avec lui de l'aménagement du triangle de Gonesse, fin octobre. Il nous fera une mise à jour des dernières évolutions sur ce lieu. Mais avant cela, nous parlons du plateau de Saclay avec vous, Jacques Cadélec. Bonjour.
Bonjour.
Nous en discutions avant l'émission, donc à cette tribune du collectif du Monde qui s'exprime sur le Grand Paris. Nous allons y revenir. À côté de moi, Ptolémée.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Donc peut-être l'avez-vous vu, cette tribune du Monde qui est parue hier matin, il me semble.
Non.
Donc c'est un collectif de différents maires. Donc on a évidemment la maire de Paris, mais des maires également d'un peu tous les partis. Et donc qui s'exprime en faveur de l'allongement, donc du maintien du Grand Paris Express dans son projet tel qu'il existe aujourd'hui. Donc avec des arguments de lutte contre la pollution, de projet social, de projet urbain, de développement économique, etc., etc. Donc particulièrement, ça fait sens pour Saclay peut-être. Donc avec la création de la ligne 18, c'est ça, côté Saclay ?
Oui. C'est bien la ligne 18 dont il s'agit.
Ouais. Et donc votre collectif, le collectif Saclay Citoyens, s'exprime contre ce projet-là, donc d'allongement de ligne métro, mais également du cluster scientifique qui devrait être développé sur le plateau.
Oui, mais ça n'est pas que le collectif Saclay Citoyens, parce qu'à travers l'appartenance de ses membres, on retrouve une grande partie des associations qui essayent de limiter l'urbanisation du plateau de Saclay. On dit bien essayer, on ne veut pas tout casser. Mmh. Mais effectivement, depuis le début, nous considérons que cette ligne 18 est le vecteur de l'urbanisation future du plateau. Et donc c'est ça le problème. Et globalement, on pense que si cette ligne se fait, dans 50 ans, il n'y aura plus de champs dans le plateau de Saclay. Or, notre combat principal, finalement, c'est de conserver des terres agricoles proches de Saclay, comme nos amis du Triangle de Gonesse. Mmh, mmh.
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau de Saclay sur lequel on devrait développer un projet de cluster donc scientifique avec...
C'est essentiellement un plateau agricole, et c'est pour des raisons géographiques que ça s'est traduit comme ça, puisque le plateau de Saclay, c'est un grand triangle qui se trouve entre la vallée de l'Yvette d'un côté et la vallée de la Bièvre de l'autre côté. En gros, de Massy-Palaiseau à Versailles.
Okay.
Et ça représente à peu près 5000 hectares de terre. Et sur ces 5000 hectares, nous avons obtenu au début du Grand Paris, la sauvegarde de 2300 hectares minimum, qui est considérée comme le minimum pour conserver une agriculture fonctionnelle, puisque une agriculture, ce n'est pas seulement des champs et des agriculteurs, c'est aussi des moyens techniques qui doivent être globalisés, et ça ne se fait pas sur 50 hectares.
Et donc, on a aujourd'hui ce projet de cluster donc qui est acté, hein, le cluster scientifique. Donc, on aura le regroupement de 18 ou 19 donc entités, donc avec des universités. Mm-hmm. Donc, par exemple, le NS de Cachan qui se déplace, qui va être baptisé Paris-Saclay. Mm-hmm. Le Polytechnique qui est déjà sur place, HEC également. On a 6 universités qui vont se déplacer. On a également des centres de recherche, donc le CEA, par exemple. Et donc, on a cette volonté de créer un cluster scientifique, donc à portée internationale. Donc, le but, qu'est-ce que c'est exactement de déplacer ces quelques universités, de les regrouper?
Le but tel qu'on voit, c'est un but de grandeur nationale, parce que il faut devenir bien classé dans le célèbre classement de Shanghai des universités mondiales. Et pour cela, l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble. Et que les savants, les ingénieurs, les chercheurs qui vont se trouver, en allant prendre leur café, trouveront des idées géniales parce qu'ils se compléteront les uns les autres. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la cafette. Et évidemment, nous contestons cela, puisque aujourd'hui, quand même, les équipes scientifiques sont très souvent internationales. Ils travaillent par Internet un peu partout dans le monde ensemble. Et ça nous paraît un peu dépassé comme pratique. Et chose plus grave, de notre point de vue, c'est que c'est excessif au niveau de la France. Hein. C'est 20% de la recherche de l'Île-de-France. Si on ajoute le reste avec l'Île-de-France, ça atteint des proportions fantastiques. Et globalement, évidemment, localement, on lutte sur place, mais c'est l'aménagement du territoire national qui est en cause.
C'est-à-dire que c'est 20% de la recherche nationale qui serait concentrée à Saclay, sur le plateau de Saclay.
Je ne sais plus si c'est c'est ou national ou l'Île-de-France, mais national, enfin, c'est énorme.
Peut-être aussi qu'il faut préciser que ce n'est pas seulement de la recherche qui aura lieu, mais ce sera aussi des grandes entreprises qui auront leur centre de recherche et développement, et que l'idée, c'est aussi de lier la recherche publique à la fois les universités et les grandes écoles et les entreprises.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'est pas nouveau que comment l'industrie travaille avec les universités et les centres de recherche. Hein.
Avec les industries actuelles, mais également les industries à venir, donc avec les start-up et les entreprises innovantes.
Oui, sur le plateau de Saclay, il y a des Thomson qui est maintenant, Thales existe depuis longtemps. Le premier à s'implanter, ça a été Danone et son centre de recherche, en face de Polytechnique. Et le plus gros truc arrivé récemment, c'est le centre de recherche, l'EDF, qui était à Clamart. Mais pourquoi le mettre là? Pourquoi le mettre là? Moi, personnellement, je l'aurais bien vu dans une ville de province, par exemple en Normandie, près des centrales nucléaires et près des projets éoliens.
Oui, et de fait, il y a pas mal d'universités qui vont être déplacées depuis là où elles sont, enfin, ou d'universités ou de...
Surtout les grandes écoles, parce que l'université qui reste sur place, c'est celle de Paris-Sud-Orsay.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'université qui produit le plus de prix Nobel depuis début du XXe siècle, c'est l'École normale supérieure, qui fait 4 fois mieux qu'Harvard. Donc du coup, on sait que l'École normale supérieure, c'est une entité qui est assez restreinte, hein, en nombre de chercheurs, en nombre d'étudiants. Donc on voit que finalement, le nombre de Nobel par tête, par étudiant et par chercheur, finalement, ça marche bien quand on est sur des petites entités. Le 6e mondial, c'est l'École polytechnique, l'IX. Et pour Shanghai, il faudra que les chercheurs publient sous le même nom. Et si c'est effectivement le cas, donc sur cette nouvelle université de Saclay...
Alors là, c'est assez mal parti. Hein, vous savez peut-être que l'idée grandiose, c'était qu'il y ait une convergence totale entre les grandes écoles et l'université publique, en quelque sorte. Et là, pour le moment, on est dans l'échec, puisque... Après beaucoup d'efforts pour obtenir un accord, il y a eu récemment une décision de couper en deux. Alors maintenant, il y a en fait deux universités, celle qui est centrée sur Polytechnique et celle qui est centrée sur l'université d'Orsay.
Donc c'est ce que Macron a acté fin octobre, là, il s'est rendu sur le plateau de Saclay. Donc il a acté la création d'un pôle d'excellence autour de deux ensembles universitaires.
C'est ça.
Et donc on voit bien cette dichotomie à la française, donc entre universités, même si l'ENS de Cachan, par exemple, sera côté universitaire, donc avec Paris Sud, et les grandes écoles, Polytechnique par exemple, l'ENSAE.
C'est un peu géographique quand même, mais il faut reconnaître que la zone de Polytechnique qui est au-dessus de Palaiseau, c'est là où se trouve Polytechnique depuis 1976, et donc là, elle va émerger et se joindre, je crois, à HEC, à tous ces gens-là, qui sont là aussi depuis plus longtemps, et plus loin, en allant au-dessus, alors de Gif-sur-Yvette, on trouve effectivement Supélec qui est installé depuis longtemps, et où vient de s'installer Central après avoir fusionné avec Supélec, et également l'école normale supérieure de Cachan qui est en train de se construire. Donc là, il y aura effectivement quand même une unité qui marie quand même grandes écoles et universités de ce côté-là.
Ouais, donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'argument majeur côté université et grande école pour le rapprochement des pôles de recherche, c'est... justement, cette signature commune qui serait une signature Paris-Saclay, Université Paris-Saclay, et qui permettrait de se retrouver dans le top 20 du classement de Shanghai et d'avoir une visibilité à l'international, d'attirer de grands chercheurs, de bons chercheurs. Et donc finalement, s'il y a séparation en deux, cette agrégation des signatures, donc on parle seulement des signatures, la recherche en elle-même, a priori, il n'y a pas trop de raisons pour que ça change vraiment. L'agrégation des signatures, elle n'aura pas autant lieu que ce qui aurait pu être espéré et attendu, quoi.
Oui, enfin, moi, ma question, c'est, on n'a jamais eu de réponse à cette question. Pourquoi nous faut-il 75 000 ou 65 000, ça dépend des jours, chercheurs, étudiants et enseignants au même endroit, alors que Harvard, c'est 20 000. Et que notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, a déclaré il y a quelques années que une bonne université, c'était autour de 20 000.
Et donc, oui, c'est ça, parce que le modèle qui est avancé, c'est celui des grands campus à l'américaine et à l'anglo-saxonne en général, donc Oxford, Cambridge, Stanford, etc. Et donc ça, visiblement, ça n'aura pas trop lieu. Donc les universités font la tronche, Paris Sud, l'ENS Cachan également, puisque la séparation en deux pôles, ça a été principalement menée par Polytechnique, a priori. Qu'on peut trouver dans les journaux.
Je ne suis pas dans le secret des lieux. Je ne me prononcerai pas.
D'accord. Toujours est-il que ce pôle va avoir lieu a priori, ou en tout cas les constructions ont commencé. Et donc pour que cela fonctionne, il faut des transports. Il faut des transports reliant le plateau de Saclay, le pôle de recherche et d'innovation à Paris et en règle générale au Grand Paris. Donc la ligne 18 du Grand Paris Express est construite en grande partie pour cela, peut-être.
Je ne suis pas sûr, parce que initialement, il faut remonter à M. Christian Blanc, qui a suivi l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir, et qui voulait, lui, faire un Grand Paris Express élitiste à l'époque, puisqu'il s'agissait de relier les centres de développement universitaire et industriel et autres aux grands aéroports, par exemple, ou aux centres d'affaires comme la Défense, pour que nos grands savants ne perdent pas de temps dans les transports. Donc c'était ça l'idée. Alors évidemment, pendant le débat du Grand Paris, qui a été géré par la Commission nationale du débat public en 2010-2011, il y avait également un projet concurrent de celui de l'État, c'était celui de l'Arc Express présenté par la région. Finalement, les deux projets ont été mariés. Arc Express est devenu la ligne 15 à peu près du Grand Paris Express. Et puis, le reste est resté en place. Il fallait relier Saclay à Orly, Saclay à la Défense, etc., etc. Donc, c'est ça qui est en train de se mettre en place petit à petit.
Oui. Et donc, cette ligne 18, elle comportera une dizaine d'arrêts, dont Massy-Palaiseau, où passe aujourd'hui le RERB, et elle rejoindra donc d'un côté Orly.
Oui.
De l'autre côté,
Versailles,
exactement, où passe le RERC. Et donc ça va se faire en plusieurs parties. Donc on attend d'ici 2024 la partie est, donc CEA Saint-Aubin, Saint-Aubin vers Orly, et ensuite d'ici 2030 la partie Versailles-Saint-Quentin CEA. Mais visiblement, on n'est pas sûr de la réalisation de la seconde partie. C'est pas...
Elle est contestée depuis longtemps, y compris par des organisations aussi respectables que la Cour des comptes ou le Commissariat général aux investissements. Mmh. Mais nous, quand on l'a dit lors des débats publics ou de l'enquête publique, ça n'a eu aucun effet. Il se trouve que maintenant, il semble que notre nouveau gouvernement veuille respecter un petit peu, limiter la casse au niveau des dettes. Mmh, mmh. Et comme vous le savez, depuis peu de... le Grand Paris Express a été vendu à 26 milliards d'euros sur sa totalité.
Ouais.
On sait depuis quelques 2 mois, je crois, à peu près, qu'on en est déjà à 35 milliards. Mmh. Et ceci après 2 ans d'ouverture des premiers chantiers. Comme on s'en doutait, les grands projets ont toujours dérivé de au moins... Disons que la moyenne, c'est 43% hein, des dérives des coûts des grands projets.
Ouais. Et donc cette ligne 18, elle est annoncée à 3 milliards, c'est ça ?
À 3 milliards 2, le dernier chiffre qu'on a entendu par la Société du Grand Paris lors d'une réunion à Palaiseau.
Ouais, donc si on...
Incluant le matériel roulant.
Ok. Et donc si on estime un dérapage moyen, vous disiez de 40-45%,
oui.
Donc on arriverait à quoi ? À
5 milliards, entre 5 et 6 milliards.
Ouais. Et donc l'État, il répond quoi quand vous leur dites que...
L'État il ne nous répond pas beaucoup, ouais. Parce qu'on l'a bien vu, lorsqu'on a demandé qu'un débat public ait lieu, on l'a jamais obtenu. Hein. Ça a été bien fait d'ailleurs, parce qu'en fait, le projet Paris-Saclay a été raccroché à la loi du Grand Paris.
Ouais.
Et comme il y a eu un débat public pour le réseau du Grand Paris Express, ils ont considéré que le débat public avait eu lieu. En réalité... l'aménagement du plateau de Saclay aurait dû légalement être soumis à un débat public sous l'égide de la Commission nationale, mais ça n'a pas eu lieu. Et pourquoi ? On l'a appris il n'y a pas tellement longtemps. C'est parce que l'État n'a pas publié le décret qui aurait permis de le faire.
Mmh.
Il faut savoir qu'à partir de 300 millions, un projet qui a un impact sur l'environnement doit être soumis à débat public. Ça ne l'a pas été.
Mmh. Et donc eux... considère que ça l'a été parce que y a eu cette concertation sur l'ensemble.
Ils ont annexé, en fait,
Grand Paris Express.
Quelquefois, je me plais à dire que Paris a annexé Saclay.
Ouais. D'accord. et vous, votre point de vue, quel est-il ? Donc, le coût risque d'exploser. Et en dehors de ça, est-ce que vous la souhaitez, cette ligne 18, si elle se faisait effectivement à 3 milliards ? Est-ce qu'elle en quoi elle pourrait poser problème ?
Elle pose problème en ce sens que elle est faite en direction de Paris. Elle n'est pas faite pour les gens des environs.
Mmh.
Et on nous dit, nous, quand on dit « mais ça va être épouvantable parce que vous allez bloquer par la circulation automobile toute la région », on dit « mais non, 50% des gens viendront par le métro ». Ce qui supposerait que 50% des gens qui travailleront à Saclay viennent de Paris ou de Massy ou de cette banlieue. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes persuadés que les gens qui souhaiteront s'installer pas trop loin, ils ne vont pas s'installer là où l'immobilier, le foncier est excessivement cher. Ils vont plus aller à côté. Et par exemple, on a déjà le centre de recherche de l'EDF qui était à Clamart. Les gens qui travaillent là-bas, je suppose qu'ils sont encore pour beaucoup à Clamart. Ils ne vont pas venir par la ligne de métro 18. Alors, il y a quand même... Il y a une dichotomie entre le rayonnement vers Paris et puis la desserte locale.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée qu'à chaque fois qu'une station s'ouvre, il y a un appel d'air et ça accélère le mitage des terres agricoles ?
Oui, alors ça c'est oui et non, parce qu'en fait, il n'y a pas de gare entre le Christ de Saclay et... je crois que c'est le premier, c'est... Oh, zut. Billancourt. Cette zone-là, il n'y a pas de gare. Mais enfin, bon, à partir du moment où il y a... Alors, tiens, une chose qu'il faut dire, au fait, c'est que actuellement, l'enquête publique a eu lieu pour la ligne 18 entre Orly et Saclay.
Mm-hmm.
La gare qui devait être implantée au Christ de Châtelet n'est pas, a été ôté de la zone de l'enquête publique pour la simple raison qu'elle est non edificandi en ce moment du fait de la présence de l'installation du commissariat à l'énergie atomique à côté.
Okay.
Alors évidemment, ça va se disparaître petit à petit. Mais actuellement, le terminus n'est pas le terminus prévu initialement. Il n'y a pas de gare au terminus pour le moment.
Le terminus, c'est celui... Donc ce sera...
actuellement, c'est Giforçais.
Ou... Ok, d'accord. Mmh. Okay. Et donc cette gare, elle devait être plus utile à la population locale ou elle était également tournée vers le cluster ?
Oui, elle n'est pas très loin du commissariat à l'énergie atomique, hein, mais bon, ça ne change pas grand-chose, parce qu'actuellement, en fait, les constructions, les nouvelles constructions universitaires se font sur le sud du plateau.
Ouais.
Alors qu'au Christ de Châtelet, on est au centre du plateau.
Mmh. Ok. La venue de 40 000 étudiants dans les 5 ans là, qui vont venir, ça va se faire avant la construction de la ligne 18, puisque cette ligne 18 elle devrait être faite en 2024. Donc il y a également un risque que ces 40 000 étudiants, ils vont prendre le RER B, là, en l'occurrence, pour aller vers le centre
de
Paris.
Oui, ou leur voiture.
Ou leur voiture.
Éventuellement, parce que nous, on nous dit que, de toute façon, les étudiants n'ont pas de voiture, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de places de parking auprès des résidences universitaires. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai des doutes.
Ouais, j'ai l'impression que c'est faux. pour connaître certains étudiants de l'ENS de Cachan, qui est en ce moment à Cachan, donc ils font des allers-retours en voiture jusqu'à Polytechnique pour des masters en commun. Donc si, ils ont des voitures et ils se déplacent, eux aussi. Ok. Et une partie du métro sera en aérien, c'est ça ?
Oui, initialement, il devait être en souterrain complètement.
Ok.
Hein, Christian Blanc avait dit, si on le met en aérien, on va avoir des problèmes.
Ouais.
Donc, mais en fait, lors de l'élaboration du projet, pour des questions financières, très probablement, il a été décidé de faire en souterrain jusqu'à Polytechnique, en fait, hein, puisque la gare émergera entre Palaiseau et l'école Polytechnique, qui est sur Palaiseau. Ouais. Et ensuite, on passerait en aérien jusqu'à Magny-les-Hameaux, en gros... et replongerait pour aller vers Versailles.
Donc ça, ça avait été exprimé, cette volonté d'enterrer le métro sur toute la ligne dès le débat public.
Ah
bah
oui, mais dans le débat du Grand Paris en 2011-2010, ouais. Ça a déjà été précisé, et c'était, d'ailleurs, si on regarde les comptes rendus du débat à l'époque, on verra que c'était une zone qui était déjà contestée à l'époque.
Et justement, là, il est écrit dans le bilan, donc je vous le cite, là, que le débat a fait apparaître pour ces trois lignes, donc les trois lignes du Grand Paris, 15, 16, 17, 18, donc ça fait 4, il doit y en avoir une en trop. Donc le débat a fait apparaître pour ces trois lignes une très nette préférence, sinon une exigence, celui du passage en souterrain, alors que la proposition de la Société du Grand Paris prévoyait une construction en aérien sur une vingtaine de kilomètres. Donc visiblement, cette volonté de la population locale, elle n'a pas été respectée. Quoi.
Ah bah oui, sinon je ne vois pas pourquoi les quatre maires des gros villages ou des petites villes qui sont sur le plateau de Saclay auraient déposé un recours devant le Conseil d'État pour annuler la déclaration d'utilité publique puisqu'ils n'ont pas obtenu satisfaction. Nous, association, on demande... on n'est pas de ligne de 18 du tout pour des raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas être le vecteur de l'urbanisation du plateau. Les maires, eux, parce qu'ils ne veulent pas de viaduc.
Mais pour autant, est-ce que vous contestez la création du cluster en dehors de cette ligne 18?
On ne peut pas contester forcément les améliorations de nos locaux universitaires, une modernisation, mais on ne peut pas s'empêcher non plus d'en voir quand même des opérations de spéculation immobilière, puisque les anciens sièges, je pense l'école centrale par exemple à Châtenay-Malabry, vont être vendus pour probablement du résidentiel et entretenir le marché de l'immobilier.
Parce qu'aujourd'hui, sur ces terres agricoles, donc on est à 4 euros du mètre carré, en gros.
Oui, je crois. Oui.
Ouais, donc la spéculation, elle a lieu de quelle manière au
moment si vous voulez, les grandes écoles qui s'installent vendent leurs anciens territoires. C'est également le cas pour l'Institut Minitélécom qui vient de la rue Barraud à Paris. Et ça fait déjà un capital de départ pour la construction. Et le reste vient d'un budget de l'État qui a été mis en place, je crois, qui tourne autour des 2 milliards, un petit peu inférieur à 2 milliards, qui a été voté là sous le gouvernement Sarkozy pour construire les nouveaux bâtiments.
Okay.
Et ça c'est déjà bien avancé, hein, puisque l'école centrale est rentrée cette année. Et que l'école normale supérieure de Cachan, c'est en construction.
Mais en quoi ça crée une spéculation sur l'immobilier, ça, de construire des nouveaux bâtiments sur des terres agricoles?
Je parlais plutôt globalement, c'est-à-dire il faut voir les opérations des grandes écoles qui déménagent, ils font du bénéfice sur la vente de leur ancien siège, et en plus, ils bénéficient d'un support financier très important de l'État pour s'implanter sur le plateau de Saclay.
Mais bon, ça, du coup...
C'est pas condamnable, hein.
Oui, c'est côté universitaire, moi, ça me gêne pas trop. Après tout, ils ont besoin de sous, donc... OK. Et si il n'y avait effectivement pas de ligne 18 et que ce cluster était réalisé... Qu'est-ce que les opposants proposent pour les transports?
Justement, alors là, ce qu'on reproche, c'est que les alternatives n'ont pas été étudiées.
Ouais.
Puisque, initialement, cette ligne était prévue, il fallait la faire. Hein. Quand on... Enfin, je ne vais pas trop développer là-dessus, non. Donc... ce que je veux dire, c'est que... Après, nous, on a un peu réfléchi, quand même. Et on a dit, c'est pas la meilleure solution. Puisque, en plus, cette solution, elle n'aide pas... les voyages autour pour accéder au plateau de Saclay sans venir de Paris. Et à ce moment-là, on a eu quand même, il y a en 2015, je crois, on a organisé, c'est la Polytechnique d'ailleurs, un débat sur les possibilités d'utiliser des téléphériques.
Ok.
Téléphériques, donc entre le plateau et les gares. Des RER qui entourent le plateau. D'un côté, la C qui fait Massy-Versailles, et de l'autre, la B qui fait Massy-Saint-Rémy.
D'accord. Donc un téléphérique à la manière des téléphériques de montagne.
On entend par téléphérique des systèmes qui fonctionnent dans certaines villes, en Amérique du Sud en particulier, qui sont multinacelles, hein, qui permettent d'accrocher plus ou moins de nacelles pendant un certain temps et d'assurer un débit quand même assez important.
Et quelle différence ça aurait avec un...
La différence, c'est que c'est beaucoup moins cher et que c'est beaucoup plus rapide à faire.
Okay.
Actuellement, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, les écoles sont là, les étudiants arrivent, et c'est en 2024 que le métro devrait arriver.
Ouais.
Enfin bon, la ligne 15 est déjà en retard, on ne voit pas pourquoi la ligne 18 ne serait pas en retard. Donc ça veut dire qu'on s'apprête à 10 ans de...
qu'il y a les JO. Les JO, ça devrait faire accélérer.
Oui, mais pas sûr. On n'en a pas besoin. Les gens de Versailles disent qu'ils en ont besoin pour les Jeux Olympiques, mais c'est pas vrai puisque le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est servi par ailleurs et il n'a pas besoin de ça pour ce.
Ouais.
Et quant au golf national aussi, où il y aura des épreuves, ils sont habitués à faire des grandes épreuves sans métro.
Si vous regardez sur le site du Grand Paris Express, là, on peut voir les étapes année par année. Donc d'ici 2019, il devrait y avoir le tronçon nord de la ligne 14 jusqu'à Saint-Denis qui devrait être construit. 2022, tronçon sud de la ligne 15, donc Pont-de-Sèvres-Noisy. Et là, 2023-2024, boum, c'est incroyable. La moitié de la ligne 18, la ligne 16, la ligne 17. Donc ça paraît effectivement une accélération.
Oui, il y a certains urbanistes professionnels du bâtiment qui émettent des doutes sur la possibilité de... Mais est-ce que vous savez que sont commandés 9 tunneliers actuellement pour la ligne 15. Le premier va être livré très bientôt.
Ok, et donc dans les alternatives à cette ligne 18, on peut penser que le téléphérique pourrait en être une. L'aménagement du RER B aussi peut-être,
je peux voir des choses. C'est le problème le plus chaud actuellement dans notre région, c'est le non-fonctionnement, le dysfonctionnement permanent du RER B, où pratiquement il y a des incidents chaque jour, et où le soir, c'est quelquefois, on frôle l'émeute sur les quais de certaines gares. Et actuellement, on a eu récemment un débat sur Palaiseau organisé par notre députée Amélie de Montchalin, où ça a été assez chaud là-dessus, puisque ça a été dit, mais nous on nous dit, mais on ne peut pas moderniser la ligne B parce qu'on n'a pas les moyens, quoi.
Ouais.
Donc l'idée était de dire, ne faites pas la ligne 18 et modernisez la ligne B. Mais ça paraît un peu difficile puisque les voitures anciennes sont pratiquement toutes rénovées sur cette ligne. Et actuellement, on nous annonce le passage à des voitures duplex à étage entre 2025 et 2028.
Ok, donc après la ligne 18. Donc.
La RATP, le directeur de la ligne B était là à cette réunion à Palaiseau. Il nous a bien précisé, et tout le monde le dit, la ligne B est déjà saturée.
Ouais.
Aux heures de pointe, bien sûr, pas à 11h du soir ou à 4h de l'après-midi.
En train ou en passager?
En nombre de passagers, 900 000 passagers jour.
Mais ce serait possible de rajouter des trains sur cette ligne en heure de pointe?
Non, pratiquement pas, puisque vous connaissez le célèbre étranglement du tunnel entre Châtelet et la gare du Nord.
Oui, où ça passe en deux fois une voie, c'est
ça ? Où passe également la ligne D. Donc, un incident sur la ligne D, il se répercute sur la ligne B. Un incident sur la ligne B, il se répercute sur la ligne D.
Et on sait qu'aujourd'hui, en gros, 20% des trains du RER B ont un retard de plus de 5 minutes, donc les stats sont bien faites, donc on ne sait pas si c'est 6 minutes ou si c'est 30 minutes en moyenne, on sait juste
mais
que...
Mais non, mais il y a plein d'incidents, ça peut être quelqu'un qui se trouve mal dans le train, ça peut être un colis abandonné, et c'est permanent.
Ouais. Ok, bon, on va faire une petite pause musicale, et ensuite on prend Jean-Yves Souben par téléphone.
See you.
Oui, on est de retour sur Aligre FM 93.1. Nous sommes avec Jacques Adélègue du collectif Sac les citoyens et nous prenons par téléphone Jean-Yves Souben du CPTG. Allô, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour Clément, bonjour Jacques, bonjour Ptolémée.
Bonjour.
Donc nous, vous revenez suite à l'émission qui avait lieu fin octobre, je crois, ou début novembre, je ne sais plus.
Oui.
Sur l'aménagement du triangle de Gonesse, pour nous faire un petit point sur les avancées, sur les évolutions.
On est aussi accroché à l'actualité et on essaye de savoir à peu près ce qui va se passer pour la ligne 17. Ouais. Hein, la 18 au sud, la 17 au nord. Mmh. On devait avoir une annonce le 23 octobre du président de la République.
Ouais.
Et puis on n'a rien vu venir. Donc je pense que la décision doit être difficile. À prendre et apparemment on parle de conférence territoriale pour les banlieues, pour le nord de la banlieue nord-est entre autres. Mm-hmm. Donc nous on attend de voir quelle décision va être prise parce que il y a eu cette fameuse tribune dans Le Monde dont vous avez parlé.
Ouais.
Donc en fait les élus se mobilisent. Nous ce qu'on dénonce, on est assez d'accord avec un certain nombre de choses, hein. La rentabilité d'une ligne, elle n'est pas forcément une rentabilité à tout prix. Je veux dire la ligne 16 par exemple est une ligne qui a l'avantage de désenclaver Clichy et Clichy-Montfermeil. Mmh. Bon, donc même si c'est pas une ligne qui paraît très rentable, pour nous si ça rend service à des populations, c'est bien.
Ouais.
Hein, le problème de la ligne 17, c'est qu'elle rend pas service à des populations.
Ouais.
Parce qu'une ligne de métro, une ligne de transport, ça doit relier des pôles de main d'œuvre avec des pôles d'emploi, comme dit Jacqueline Lortiois, hein. Ou des lieux d'habitation avec des lieux d'activité. Là, c'est pas le cas du tout.
Dans la tribune du Monde, du collectif de maires, il est écrit qu'il s'agit d'un projet social également, ce Grand Paris Express, qui, je les cite, il permettrait de relier des territoires jusqu'à présent peu ou pas desservis. Donc, par exemple, à l'est de la Seine-Saint-Denis, mais également au sud, sur le plateau de Saclay, ou encore au nord, entre le Bourget et Roissy.
Oui, c'est ça. Et donc, entre le Bourget et Roissy, on va relier qui avec qui?
Voilà, donc cette histoire de projet social, c'est finalement...
C'est ça qui est intéressant. Le Bourget, c'est un aéroport d'affaires.
Mm-hmm.
Bon, donc, j'imagine mal ceux qui arrivent en avion... en avion privé, en jet privé sur l'aéroport du Bourget, prendre le métro pour aller je ne sais où, pour aller à Roissy par exemple. Je comprends pas bien, j'imagine mal et donc en fait on fait un certain amalgame. Alors il y a des maires qui sont de bonne foi, hein, bien sûr, hein, mais il y a surtout le BTP qui pousse derrière parce que c'est le BTP qui est intéressé par tout ça.
Mmh.
Hein, donc là j'étais en train de vous dire sur la ligne 17 Nord, hein, on voit il y a des analogies avec la 18 Sud.
Ouais.
Hein. Sur la 17 Nord, on a 5 gares. Mmh. Pour lesquels il y a zéro habitant dans un rayon de 800 mètres autour de la gare.
D'accord, donc c'est très social comme projet. Ouais, absolument.
Donc si vous prenez le Ménil-Amelot, Roissy 1, Roissy 2, le parc des expositions de Villepinte et le triangle de Gonesse,
okay,
il y a zéro habitant dans un rayon de 800 mètres.
Mmh.
C'est comme ça que calculent la rentabilité d'une gare les autorités. Donc faire 5 gares qui se suivent avec zéro habitant dans un rayon de 800 mètres, c'est énorme, quoi. Question rentabilité, c'est nul. Et donc la 17 Nord, la seule rentabilité qu'elle aurait, enfin, c'est même pas de la rentabilité, hein, c'est les services qu'elle pourrait rendre, ça serait à Europa City.
Oui, la création de ce fameux pôle commercial, touristique, immobilier,
voilà,
également, ouais, dont on avait parlé la dernière fois.
C'est surtout que l'Alliage des territoires a déclaré que s'il n'y avait pas de gare, le projet se ferait pas. Donc en fait, quand les maires réclament à corps et à cri cette ligne 17 Nord, c'est seulement pour, notamment le maire de Gonesse, c'est pour avoir ce complexe touristico-commercial. Là. Parce qu'en fait, si c'était pour rendre service aux Gonessiens, nous on est assez d'accord.
Ouais.
Mais dans ce cas-là, la gare, faut pas la faire en plein champ, il faut la faire à Gonesse.
Donc nous disions la dernière fois que le conseil municipal a validé la la rénovation du PLU contre l'enquête publique. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle enquête parcellaire qui a lieu, c'est ça ? Donc spécifiquement sur la gare ?
Oui, alors là c'est la démarche normale. Hein. Une enquête parcellaire pour les dernières expropriations. C'est pas pour la gare, hein, c'est pour le tronçon nord de la ligne 17.
Ok, d'accord. Mais y compris pour la gare qui se trouvera au milieu du triangle.
Alors pour la gare, la DUP, elle a déjà eu lieu.
Elle a déjà eu lieu. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer ? L'enquête parcellaire devrait, on s'attend à un résultat plutôt positif ou pas ?
Alors l'enquête parcellaire va juste servir à établir à qui sont les parcelles et faire les expropriations et puis pouvoir permettre les premières fouilles archéologiques et lancer le tunnelier quoi. Donc là c'est vraiment une démarche administrative qui annonce l'arrivée du BTP quoi.
Ouais. Et vous me disiez avant l'émission, vous faisiez le pont avec les tribunaux d'arbitrage développés avec le CETA et le TAFTA. Donc aujourd'hui, les entreprises risquent de se retourner contre l'État si cette gare n'a pas lieu.
Alors, ce qu'il y a, c'est que le BTP, les grandes entreprises de BTP se sont réparties tous les chantiers. Okay. Mais on ne sait pas quelles sont la teneur des contrats qui ont été signés avec l'État. Okay. Donc on peut pas savoir, mais il est fort à parier que si jamais les lignes se font pas, il y aura des indemnités qui vont dégringoler.
Donc la répartition des gares a été faite avant d'acter définitivement la création de ces gares, la construction de ces gares, puisque Macron n'a pas encore fait son choix définitif.
Tout a été acté et arrêté. Maintenant, c'est le nouveau gouvernement qui reviendrait sur un certain nombre. D'accord. Ils ont fait une étude de faisabilité et une étude de rentabilité. Et en fonction de ces études, alors Jacques l'a dit tout à l'heure, hein, on le sait, c'est toujours comme ça. Il y a des chantiers dont les prix vont s'envoler de 45 à 50%. Donc, je crois qu'il y avait un excellent article dans Le Monde il y a quelques années, je ne me rappelle plus quel était cet expert, qui parlait de 50 milliards pour l'ensemble du GPE, du Grand Paris Express, et je crois que là, on est parti, on parle de 26 à 35, et puis enfin, au bout du compte, on arrivera à 50, donc c'est énorme. Et là, on se dit que... parce que Jacques a parlé de la catastrophe du RERB dans le sud, qui est assez régulièrement bondé, en panne, et puis ce fameux tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Sur la ligne nord, sur la nord du RERB, c'est pareil. Hein, c'est des gens qui s'entassent dans un RER qui est à saturation totale. Donc en fait, Il serait urgent d'utiliser cet argent pour l'amélioration du RERB, qui, lui, relie bien des pôles d'activité avec des pôles d'habitation.
Ok. Dans la Tribune du Monde, là, donc en plus de l'aspect social du projet du Grand Paris Express, le collectif de maires rappelle l'aspect économique. Donc, il parle de plus de 100 milliards d'euros de PIB, plus de 200 000 emplois à terme. Donc, ça compenserait les coûts.
Voilà, c'est un peu curieux. On met la charrue avant les bœufs, on fait un métro, et puis bien entendu sur le long de cette ligne de métro, toutes les dents creuses qu'il va y avoir vont se remplir, hein, il va y avoir des habitations qui vont se créer, et donc là où le métro peut apparaître comme un moyen écologique de transport et de désengorger les autoroutes et le transport par voiture, eh ben c'est le contraire qu'on va avoir. On va avoir la ville qui va s'étendre, un étalement urbain, et on va rajouter de la pollution à la pollution.
Avec un risque de gentrification par-dessus tout ça.
Alors oui, en plus, oui. Ouais.
Jacques, vous voulez réagir par rapport à tout ça ?
Oui, je suis un peu perdu là, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Moi, on va continuer parce que là, je suis pas clair.
Okay.
Je suis pas clair. C'est tellement complet. C'est tellement complet.
Non, mais je pense qu'on a un peu fait le tour de. Donc là, il y a un recours qui est lancé contre la décision du maire ou qui va être lancé.
Alors, nous, le CPTG, on va attaquer... Le CPTG, c'est le collectif pour le triangle de Gonesse.
Ouais.
Hein, on va attaquer la décision du maire. Le préfet avait la possibilité de revenir sur la décision du maire. Bon, il l'a pas fait, donc nous, on va faire un recours devant le TA.
Okay.
Et ce recours, il doit être fait avant la fin du mois.
D'accord, et donc les travaux ne sont pas censés commencer avant le recours ?
Alors le recours, il n'est pas suspensif.
Okay.
Eh non. Non, donc les travaux, alors les travaux vont pas commencer tout de suite.
Mmh.
Hein, là, on est dans l'enquête parcellaire, donc en fait, les travaux vont pas commencer tout de suite.
Enfin,
mais
le retour
mais
du
en fait,
recours, ouais.
Mais en fait, c'est vrai que les entreprises de BTP et les élus locaux essayent de se dépêcher pour être dans la fameuse charrette des JO.
Ouais, ouais.
Donc, parce qu'en fait, les JO, ça c'est une date qui est imposée et tout le monde essaye de même ceux qui n'ont aucune ligne qui vont desservir les JO. Hein, ouais. Tout le monde essaye d'être dans cette charrette de façon à être inscrit et bouclé pour 2024.
Ouais, ouais. Et un recours comme ça peut prendre combien de temps
Ah ben le recours là, il est déposé d'ici la fin du mois, il prendra un an à peu près.
Ouais,
hein.
Ouais. Jeff. Ouais.
Oui, là je peux ajouter quelque chose qui concerne Saclay cette fois, c'est que comme nous on n'a pratiquement pas besoin de la ligne 18 pour les Jeux Olympiques, nos élus locaux ont inventé leur candidature pour l'exposition universelle de 2025.
Ouais.
Alors là, c'est la cerise qui pour moi fait des bordels de gâteau, si je veux dire. C'est absolument ahurissant. Puisque
ouais.
Elle s'implanterait entre les deux actes qui existent déjà, où se trouve donc d'un côté Supélec central et de l'autre Polytechnique, au-dessus de la 118 et au-dessus d'Orsay.
Ok.
Hein, donc là,
ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est que avec le plateau de Saclay, le triangle de Gonesse a beaucoup de points communs, et notamment le fait que quand on regarde une carte, il n'y a rien. Pour les élus, les urbanistes, le BTP, quand ils regardent une carte, sur ces deux endroits-là, ils voient rien. Nous, on voit plein de choses, hein. On voit des terres agricoles avec une biodiversité fantastique. Eux, ils voient rien. Alors, cette fameuse exposition universelle, bah, avant d'atterrir sur le plateau de Saclay, elle a rôdé du côté du triangle de Gonesse.
Ouais.
Il y a toujours des gens qui veulent mettre quelque chose nos terres agricoles.
Ouais.
Il faut dire que le plateau de Saclay et le triangle de Gonesse, c'est le point sud et le point nord des terres agricoles les plus proches du centre de Paris.
Ouais.
Hein, donc, s'il y a une urgence, c'est bien de garder ces deux pénétrantes de nature pour faire respirer la capitale.
Ouais. Ce sont des zones où on peut faire de l'agriculture périurbaine, donc notamment pour approvisionner les cantines pour atteindre ce pourcentage de bio que j'ai oublié, je crois que c'est 40%.
Oui, c'était 20%. Le pourcentage, c'était 20% au 31 décembre 2012.
Donc, ces
20%, personne n'a jamais réussi à les respecter. Donc, on repousse cet objectif d'année en année.
Ouais.
Là, on a déjà 5 ans de retard et on n'y arrive toujours pas. On ne voit toujours pas comment on va faire. On a une autonomie alimentaire de la région Île-de-France qui est de 3%. Donc, on ne voit pas bien comment, avec quelques jardins sur les toits, on va pouvoir combler ce manque d'autonomie alimentaire.
Donc, ce n'est pas juste la question du bio, c'est également la question de l'approvisionnement en règle générale en denrées alimentaires.
Ouais. Ouais. Alors c'est super important, hein, l'agriculture périurbaine, mais il y a quelque chose qui est pas moins important et dont on parle moins, c'est la régulation climatique qu'apporte et au sud de Paris et au nord de Paris, ces deux plaines agricoles.
Mmh. De quelle manière?
Ben, en fait, par exemple, si je prends le triangle de Gonesse, les phénomènes de canicule ont touché les deux départements qui ont été le plus touchés en 2003, c'était la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise.
Mmh.
En fait, comment ça se passe? Eh ben, on a en période de canicule, c'est en général en été, on a de la chaleur qui est emmagasinée le jour et qui est restituée la nuit.
Mmh.
Et quand ça se prolonge pendant plusieurs jours, on tombe sur un phénomène caniculaire.
Mmh.
Quand c'est en été, c'est un vent qui vient du nord-est de l'Europe. Et donc, il passe au-dessus du triangle de Gonesse et ensuite, il souffle sur la capitale.
Ouais.
Et certains agronomes estiment que on augmenterait la température de la capitale d'au minimum 2 degrés si jamais on bétonnait le triangle de Gonesse. Mmh, mmh. Donc en fait, il y a effectivement une urgence agricole, d'autonomie alimentaire, mais il y a aussi une urgence climatique. En fait, les terres qui sont sur le triangle de Gonesse, c'est un réservoir de... Alors c'est un puits de carbone, hein, ça absorbe le carbone qui est dans l'air, mais c'est surtout une réserve d'eau. Et en fait, quand on chauffe la partie supérieure de ces terres arables, on a un phénomène de capillarité qui fait remonter l'eau et mm-hmm. qui rafraîchit la nuit les terres. Et donc, quand le vent souffle du nord-est, il envoie un peu de fraîcheur sur la capitale. Mm-hmm. Voilà. Bon, ça, on s'apercevra que ça aura disparu quand ça sera complètement bétonné, quand ça sera trop tard.
Ouais. Et donc, si on revient un peu pour terminer sur les arguments de cette tribune du collectif de maires emmenée par la maire de Paris. Donc la première raison pour développer le Grand Paris Express, c'était la lutte contre la pollution. Donc visiblement, côté triangle de Gonesse, ça ne fonctionne pas vraiment.
Ben non.
Projet social ensuite, donc vous nous disiez que ça ne fonctionne pas non plus puisqu'il n'y a pas beaucoup d'habitants autour des gares. Projet urbain de développement économique, là, potentiellement, et encore, on ne sait pas trop quoi.
Alors là, Clément, je m'inscris en fou avec ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup d'habitants sur le triangle de Gonesse, mais c'est pas des habitants qui vont aller travailler dans le BTP. Hein. C'est des lapins, c'est des vers de terre, c'est de la biodiversité. Hein. Mais non, mais c'est pour ça que la gare qui est inscrite sur la ligne 17 Nord. Alors regardez bien, je vous invite à regarder le tracé de la 17 Nord. Mm-hmm. En fait, il y a quelqu'un qui a tiré sur la ligne 17. Pour lui faire un coude pour aller jusqu'à sur le triangle de Gonesse. Ouais. Parce qu'en fait, elle passait cette ligne, elle allait du musée de l'air jusqu'à Roissy en ligne droite. Mmh. Et il y a quelqu'un qui l'a tiré pour l'emmener jusque-là, donc ça déjà, ça coûte cher. Mmh. Et puis ensuite, sortir une gare en plein champ qui ne servira à aucun Gonessien. Mmh. Parce que actuellement, il y a un bus qui traverse le triangle de Gonesse. Ce bus, il n'est pas fréquenté par les Gonessiens. Donc en fait, les Gonessiens, ils vont pas faire 1,5 km ou 2 à pied pour aller prendre le métro en plein champ. Mmh, mmh, si vraiment on veut rendre service aux habitants de Gonesse, et ben on leur met la gare à Gonesse. Mmh,
mmh. Et donc la conclusion de ce collectif pour terminer, qui nous disait que le Grand Paris Express va contribuer à dessiner une zone dense multipolaire et donc plus égalitaire, ni pour le plateau de Saclay, ni pour cette gare du triangle de Gonesse, ce sera le cas quoi.
Oui, et puis alors ce qu'il faut bien dire aux auditeurs, c'est que en général les écologistes sont plutôt pour le métro que pour la voiture, hein. Mais là en fait le métro il n'empêchera pas la voiture. Les autoroutes qui pénétrantes sur Paris sont à saturation, mm-hmm. et quand on regarde bien, quand on fait une étude un peu détaillée, ces autoroutes seront encore plus saturées et le métro n'évitera pas ces saturations d'autoroutes. Donc en fait le service rendu à la population, le désenclavement, on peut en parler sur la ligne 16, ça c'est sûr, mais sur la ligne 17 Nord, j'insiste bien, Nord, mm-hmm. parce que sur le Sud, on a Saint-Denis, Pleyel, qui sont reliés avec la Défense, et ça, ouais. ça nous paraît intéressant. Mais sur la 17 Nord, on voit bien que c'est juste pour faire plaisir à Alliage et Territoire et à l'investisseur Vanda pour Europa City, mais rien de plus, ça ne rendra pas de service à la population. Et ça, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est pas une question de rentabilité. C'est, alors, bien sûr, ça sera pas rentable, mais ça, on peut passer par-dessus. Si ça rendait des services à la population, là, c'est même pas le cas.
Ouais, Jacques, vous vouliez...
Oui, moi, je voudrais ajouter quelque chose, puisque c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le premier document, dans l'enquête publique, au début des opérations sur Saclay, sur la ZAC de Polytechnique. C'est qu'on nous vend ça pour faire passer la croissance de l'Île-de-France, augmenter la croissance de l'Île-de-France de 4%. Mm-hmm. C'est qui aujourd'hui, ça me paraît tout à fait incompatible avec la nécessité de limiter les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. On est sur une problématique qui est celle des Trente Glorieuses, où il suffit d'investir, de construire, de faire du métro, et que ça va relancer la croissance. Mmh. Et qui croit encore qu'il est possible d'atteindre une croissance de 4% en France ? Mmh. Alors, on dit oui, mais ça ne sera pas en France, ce sera en Île-de-France, et l'Île-de-France tirera le reste de la France. Mmh. Et bon, on retrouve le jacobinisme centraliste sur Paris.
Mmh. et je me demande si on n'est pas en train de retrouver cette fameuse idée de d'amener la ligne 18 jusqu'à la Côte d'Azur, là, non, Jacques?
Ah non, on va pas vers la Côte d'Azur.
Il n'y avait pas quelqu'un qui avait pensé à ça, déjà?
Ben non, ah ben non, c'est plutôt comment Ferdinand Lope qui voulait construire la ville à la campagne. Alors, pour construire la ville à la campagne, il y a même un article récemment qui disait, dans notre coin, que c'était l'urbanisation du plateau de Saclay qui allait réintroduire la nature dans la ville.
Ouais. Bon, eh bien, on va voir tout ça dans les années à venir. Merci beaucoup, Jean-Yves. Donc, on vous retrouve peut-être d'ici trois semaines, un mois, pour suivre les évolutions.
Pour donner des nouvelles, on va essayer de vous donner des nouvelles régulièrement. Je pense que là, c'est important. On est en train sont en train de se constituer des comités Terre de Gonesse un petit peu partout là en Île-de-France. Et donc voilà, on essaye de faire connaître de plus en plus le projet Karma. Et c'est un projet qui promeut l'agroforesterie et la permaculture et une agriculture du 21e siècle. Donc voilà notre actualité et on vous tiendra au courant.
Ok, très bien, on vous remercie.
Ben Clément, au revoir et Jacques, bon courage.
On fait ce qu'on peut. Hein.
Pour terminer rapidement, je voulais revenir sur les questions de démocratie sur le plateau de Saclay, donc revenir un peu sur la réalisation et l'organisation des différentes enquêtes d'utilité publique et qui ont pu avoir lieu. Donc vous nous disiez que il y a eu cette enquête de 2010-2011 qui a mis en évidence que la question de l'urbanisation du plateau de Saclay et du cluster lui-même n'était pas aussi claire que ce qui pourrait paraître.
Pas vraiment, parce que à l'époque, c'était uniquement centré sur les lignes de métro. C'était pas du tout centré sur les constructions qui se font actuellement.
Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait cette enquête publique, les résultats de l'enquête publique sur les lignes de métro, sur les deux projets?
Sur la nôtre, ce qui était dit, c'est qu'il y avait des accords qui existaient entre les élus régionaux, et d'ailleurs le début de la concertation a été totalement parasité par l'opposition entre le gouvernement et les élus locaux. On a eu des élus qui ne voulaient pas participer au débat, par exemple, parce qu'ils estimaient que c'était le gouvernement qui dirigeait, alors qu'eux voulaient diriger le projet. Enfin, ça a été assez bien parasité, ça, du point de vue. Mais nous, on peut pas se plaindre. Les procédures des enquêtes publiques, de tout ce qui doit être fait, est fait. La liberté d'expression existe. On peut dire ce qu'on pense, on peut l'écrire, on peut. Mais le problème, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien puisque tout est déjà décidé. Et moi, je conteste en particulier le fait que la charte de l'environnement qui est constitutionnelle depuis Jacques Chirac n'est pas appliquée. Puisque des grands projets qui altèrent l'environnement, qui touchent à l'environnement, doivent être soumis à concertation. Et la concertation, elle n'est pas vraiment... Alors quelquefois, nous sommes mieux informés que certains de nos élus, puisque nous avons des réunions avec l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, où on apprend des choses. Mais on est témoins, on n'est pas acteurs.
Et les élus locaux, à Gonesse, Jean-Yves nous disait que le maire et le conseil municipal ont voté cette rénovation du PLU, donc avec construction de la nouvelle gare. À Saclay, ça donne quoi?
À Saclay, le PLU, de toute façon, l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, et à partir du moment où il y a une déclaration d'utilité publique, ça s'impose aux PLU locaux. Donc les villes reçoivent en rouge ce qu'ils doivent modifier dans leur PLU pour permettre le passage de la ligne 18. Nous participons en tant qu'association locale sur Palaiseau à des réunions avec nos élus, avec le maire, mais ça sert à rien, on peut rien faire là-dessus. Parce que les maires, qu'ils soient même notre maire, est favorable à la ligne 18. Donc ça pose pas de problème pour lui, mais pour nous, on peut rien faire de toute façon.
Il y a des élus locaux qui s'expriment de manière défavorable au projet ou pas?
Il y a guère que les écologistes qui s'opposent à ce projet. Par contre, dans les alternatives aussi, ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est que nous, on serait assez d'accord de prolonger la ligne 14 d'Orly à Massy-Palaiseau.
Ok. pour relier au
pour ne pas faire la ligne 18 et pour faire un nouvel axe d'évacuation vers Paris.
Ok. Et ça, quel retour
C'est nos idées à nous, mais ça tombe.
Lors des enquêtes publiques, j'imagine qu'il y a possibilité d'exprimer ces propositions-là. Elles reçoivent quel intérêt de la part des enquêteurs?
On n'a pas de réponse. Ouais. On n'a pas de réponse. Quand on conteste moi, je me souviens avoir demandé dans une réunion publique qu'on organise un débat avec le Cercle des Transports. Le Cercle des Transports est un organisme, une association d'anciens et même, je crois, de présents des transports, qui a publié donc il y a 2 ans deux rapports qui, pour eux, montraient que on ne pouvait pas faire en même temps le réseau du Grand Paris tel qu'il était prévu et la remise à niveau du réseau francilien, et en particulier SNCF. Et c'est l'un ou c'est l'autre, et eux, ils prétendaient qu'il serait beaucoup plus rentable pour la vie des franciliens de rénover le réseau SNCF en particulier actuellement.
Qui inclut une partie du RER B.
Oui, bien sûr. Mais ça n'a pas été. On m'a répondu. Demandez à la Société du Grand Paris. Et la Société du Grand Paris, évidemment, ne pouvait pas organiser un tel débat puisque c'était quelque chose qui contestait ce pourquoi. Une autre fois, le président de la Société du Grand Paris m'a répondu. Mais monsieur, j'ai bien vu que la Cour des comptes contestait l'idée de faire un métro entre le Crise de Saclay et Versailles. Mais moi, on m'a demandé de construire un métro entre Orly et Versailles, donc je construirais un métro entre Orly et Versailles.
Et on, c'est qui dans ces cas-là? Donc ça vient des sphères, des hautes sphères de l'État?
C'est l'État.
C'est directement le
gouvernement. C'est la loi du Grand Paris. La ligne 18, comme la ligne 17, est résoute de la loi du Grand Paris de 2010.
Sur lequel il y a consensus ou non chez les élus, les parlementaires, et en dehors des écologistes qui sont contre, visiblement?
Je crois que sur le plan des principes de le faire tout ça, tout le monde est peut-être d'accord, sauf les écologistes, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Mais là où le bas blesse, c'est financièrement. Je crois que maintenant, on se pose la question, comment on va faire pour financer tout ça?
Moi, j'avais trouvé deux, peut-être pour terminer. Dans le rapport qui a été publié à la suite de l'enquête publique de 2010-2011, il y avait, donc on l'a dit tout à l'heure, il y avait deux projets qui s'opposaient, donc le projet Arc Express et le projet RTPGP. Donc réseau du grand transport public du Grand Paris, et donc ce résumé des débats nous disait que les tenants d'Arc Express, dont l'un des deux projets, ont notamment exprimé de forts doutes quant à l'opportunité de l'itinéraire prévu entre Versailles et Massy destiné à desservir le plateau de Saclay. Donc l'un des deux concurrents, donc pour le projet de Grand Paris Express, s'était exprimé contre cette ligne. Je comprends bien ce qui est écrit dans ce...
Oui, mais là aussi, on retrouve un petit peu des rivalités politiques, puisque la région était à gauche et le gouvernement à droite, si je ne me trompe pas. Et donc, ça recoupe un peu ça, mais...
Parce que la région soutenait
Arc Express. Arc Express et le réseau du Grand Paris ont été mariés suite à un accord entre la région et l'État. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une entité, en fait.
Mais auparavant, la région soutenait Arc Express et le...
Oui, l'Arc Express, l'Arc Express, c'est la ligne 15. Que l'on conteste absolument pas, puisqu'elle est entièrement en zone urbaine. Donc c'est plutôt un bien.
Et comment on peut expliquer que la région, qui visiblement était opposée à ce tracé, ait changé d'avis? Parce qu'elle s'est rendue compte que finalement c'était une bonne idée, ou parce que pour d'autres raisons?
Je ne sais pas vous répondre à cette question, je suis désolé.
Ok, d'accord, non, mais très bien. On va peut-être conclure là-dessus. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et d'être venu ici. Donc je rappelle, Jacques Cadélec, vous êtes du comité Saclay Citoyen, donc qui a lancé un recours entre mai et août, c'est ça?
Non, attention, hein. Alors là, sinon...
L'ensemble de l'association.
Non, parce que Saclay Citoyen, c'est un collectif.
Oui.
Je ne parle pas au nom des associations qui ont déposé les recours.
Oui, bien sûr. Excusez-moi.
Même si nous contribuons auprès des associations à amener des arguments dans la mesure où on travaille ensemble.
Oui, donc un recours a été déposé entre mai et août.
Enfin, deux recours, puisqu'il y en a un qui est déposé également par les maires du plateau. Comme l'ont fait nos amis de Gonesse.
Donc on attend les retours sur ces recours, y compris à Gonesse. Donc merci à vous, merci Ptolémée. Merci et à mercredi prochain pour une émission sur avec le CLAP, le syndicat des livreurs à vélo. À bientôt.
Vous pouvez aussi refouler ça, ça c'est un autre problème. D'ailleurs,